Evening Business, l'invité.
Avec Stéphane Raison, venez avec nous par ici, monsieur Raison. Bonsoir. Soyez le bienvenu, je vous en prie. Installez-vous.
Bonsoir.
Directeur général, président du directoire d'Aropaport. C'est la structure qui rassemble depuis un an et demi les ports de Paris, Rouen et Le Havre. C'est ça, monsieur Raison, hein.
Oui, exactement.
Fusion qui date de juin 2021. Ça fait de vous, alors, le premier port français, troisième ou quatrième port nord-européen aujourd'hui?
Quatrième, derrière, ouais, Rotterdam, derrière, ouais, Anvers, Zeebrugge, ouais, parce que les deux ports belges ont fusionné. Et puis Hambourg.
Et vous voilà quatrième. C'est 1900 salariés aujourd'hui, la réunion des trois ports. Alors, vous avez publié nos chiffres annuels ce matin. Trafic qui a progressé de 2%. Et vous dites, en fait, plus que superformé, on a surtout résisté parce que l'année 2022, forcément, n'a pas été simple, hein, monsieur Raison, pour vous.
Cinq crises d'affilée qu'on n'avait pas connues depuis des années. Donc, il a fallu effectivement travailler avec tous nos opérateurs, parce que on est une autorité portuaire, donc on réalise pas le trafic nous-mêmes. Ce sont les manutentionnaires, les opérateurs qui réalisent les trafics. Et donc, il a fallu travailler avec les armateurs. On a plutôt pas mal travaillé, que ce soit avec CMA-CGM et avec MSC, puisqu'on a une décision exceptionnelle. On avait eu une décision exceptionnelle il y a quelques années avec CMA sur Port 2000 et sur Le Havre. Et on a une nouvelle décision exceptionnelle avec MSC, avec un investissement de 700 millions qu'on voit plutôt progresser vers le milliard, et avec un triplement de leur trafic.
D'ici quelques années, hein, c'est ça l'objectif?
Oui, alors l'idée, c'est effectivement de faire x3 par rapport à un trafic annuel qui est de l'ordre de 1,5 million pour MSC. On va se donner 7 à 8 ans pour faire ça. Pour faire ça, il faut investir beaucoup, notamment dans l'outillage, les grands portiques qui permettent de traiter les plus grands navires du monde. Et ça va se faire sur des travaux sur les deux années qui viennent, et puis après, le plan de déploiement.
Alors, ce qu'on n'a pas encore dit, c'est que Aropa, c'est le seul port européen à avoir fusionné en une seule organisation deux ports maritimes.
Deux ports maritimes plus un port fluvial, donc
et
port de Paris.
Fluvial, oui, tout à fait.
Effectivement, on n'était pas les premiers, on était les deuxièmes, puisque le premier à avoir fusionné, ce sont des ports, d'ailleurs un port belge, le port de Gand, et le port de Terneuzen, Flessingue-Terneuzen. Donc ils ont fait ce premier regroupement, qui était un regroupement de petits ports, et puis on a montré la voie, donc réforme annoncée en 2017 par Édouard Philippe, reprise en 2018, création d'une mission de préfiguration, création d'un nouvel établissement public à partir du 1er juin 2021, dont j'ai assuré en fait la fin de la préfiguration et la mise en œuvre. Ouais. Et puis donc, on a montré la voie, puisque même Anvers et Zeebrugge,
concurrents, on démarre. Alors, est-ce que pour compenser la stagnation dont on vient de parler, est-ce que vous allez augmenter vos tarifs?
Alors, chacun suit un peu les indices. C'est-à-dire que l'année 2022 est caractérisée par quoi? Par une inflation qu'on n'avait jamais vue depuis 30 ans. Deuxième chose, par des indices de travaux publics qui ont explosé. On est à plus de 30% sur nos propres indices, et donc à un renchérissant de nos coûts. On a un programme qui avait été annoncé par le Premier ministre Castex en tout début 2022 au Havre, d'1,5 milliard. Donc il faut financer ce 1,5 milliard de travaux, parce qu'on avait un gros plan de travaux qu'il fallait qu'on arrive à remettre en place. Et donc nécessairement, ça a eu une augmentation de l'ordre de 150 millions sur nos travaux.
Qu'est-ce qui va faire? C'est une grande question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qui va faire qu'un port va être plus compétitif qu'un autre? Là, vous êtes quatrième en Europe. Est-ce que c'est seulement la capacité à accueillir et à stocker des marchandises, ou c'est plus large que ça finalement? Qu'est-ce qui va faire la différence entre les grands ports que sont Anvers, Hambourg, Rotterdam et le vôtre?
Alors au début, vous avez raison, c'est la géographie.
Oui, c'est la géographie.
Alors les quatre plus grands ports, ils sont tous adossés sur une grande rivière ou un grand fleuve.
Ouais, voilà.
Alors, quand on le regarde, si on part du nord au sud, Hambourg sur l'Elbe, Rotterdam sur le Rhin, Anvers sur l'Escaut et nous sur la Seine. Ce qui va nous différencier, en tout cas, c'est ce qu'on joue nous, c'est un changement de la logistique. Donc on veut décarboner la logistique. Alors je vais pas rendre hommage à ceux qui ont pensé à ça il y a quelques années, mais quand même, l'idée c'est ce corridor. On ne réfléchit pas uniquement sur un petit territoire maritime, on va réfléchir sur un territoire qui s'étend finalement, sur le plan fluvial, depuis Le Havre jusqu'à l'amont de Paris, et puis sur le plan ferroviaire, on essaye d'aller plus loin. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est la décarbonation. On a un monde...
Ça va se jouer là-dessus, vraiment.
Oui, ça va se jouer là-dessus, parce que, d'une part, tout le monde et tous les ports sont très impactés par le carbone. Prenez Rotterdam, la moitié de son trafic, ce sont des trafics pétroliers. Nous, c'est pareil. Donc, si on n'arrive pas à se décarboner, si on n'arrive pas à changer notre industrie, si on n'arrive pas à changer de modèle, et c'est ça qui est passionnant dans ce projet, c'est finalement d'essayer de changer cette logistique et cette industrie pour offrir quelque chose de nouveau.
Mais alors, justement, si on peut essayer d'être précis, et je sais que vous me savez de l'être, comment est-ce que vous allez intégrer très concrètement la décarbonation, justement, des chaînes logistiques dans vos projets?
Alors, on a fait quelques annonces, là, en fin d'année. Figurez-vous que depuis 10 ans, on avait Franprix qui livrait ses magasins du centre de Paris par le fleuve, à partir de Bonneuil-sur-Marne jusqu'au pied de la Tour Eiffel. On a annoncé le projet d'IKEA. Donc en fin d'année, IKEA, c'est comment livrer ses clients de Paris en partant de Limay et de Gennevilliers à destination du centre de Paris. Donc ça, c'est concret. Après, on a un certain nombre d'autres projets. On vient d'attribuer un terminal à Bruyères-sur-Oise, sur l'Oise, donc pas très loin de Paris là aussi. Terminal qui s'est attribué à MSC pour économiser 1 million de mouvements de camions par an. C'est pas rien. Donc on construit en fait le corridor petit à petit, à partir du Havre, à partir de Rouen et à partir de tous nos terminaux parisiens. La grande force finalement de cet écosystème, c'est qu'à Paris, on dispose de 70 plateformes. Les quatre principales qu'on connaît, donc Gennevilliers, Bonneuil, Limay et Montereau, mais on en a d'autres. Et ça, c'est la force de l'écosystème.
Tout ça est sous-exploité, c'est ce que vous nous dites aujourd'hui.
Alors, c'est
pas exploité au maximum de ses capacités.
En fait, les usages ont changé au cours du siècle, enfin précédent. Quand vous regardez les peintres parisiens qui peignaient la Seine, il y avait quoi ? Il y avait des péniches de bois, des péniches de charbon. Celles-ci, elles ont disparu. Ça a été remplacé par quoi ? Des passagers, des restaurants. Aujourd'hui, on change cette logistique. Donc, on est en train de complètement transformer et nous, on veut faire ce corridor décarboné.
Alors justement, puisqu'on parle d'environnement, on va évidemment se dire un mot sur ce projet de terminal méthanier qui est controversé. Donc, c'est un terminal méthanier flottant. Est-ce que c'est vraiment une opportunité pour vous ? Parce qu'on comprend bien l'enjeu de souveraineté énergétique. Maintenant, sur le plan environnemental, ça pose quand même une vraie question.
Alors, il y a deux points là-dedans. Quand on remonte à 2007, il y avait eu un débat public partout en France sur 4 terminaux méthaniers. Il y en avait un à Fos, il y en avait un au Verdon, il y en avait un à Antifer au Havre, et il y en avait un à Dunkerque. La crise des subprimes est arrivée en 2009 et tous les projets ont été annulés, sauf celui de Dunkerque qui s'est construit. Donc, sur le plan souveraineté...
L'époque a bien changé, monsieur Raison.
Et à l'époque, l'argument de la Commission de Régulation de l'Énergie, c'était... un jour, Monsieur Poutine va fermer le robinet de gaz. C'était marrant, c'était l'argument de 2007.
C'était bien vu, en effet.
C'était bien vu. Et aujourd'hui, on a un vrai problème de souveraineté parce qu'effectivement, il faut alimenter. Alors après, il y a la question de d'où vient le gaz. Est-ce que le gaz, il est américain ? Est-ce qu'il est qatari ? Est-ce qu'il est algérien ? Est-ce qu'il est Trinidad et Tobago ? Est-ce qu'il est du Nigeria, etc. Donc après, c'est l'approvisionnement. Comment, effectivement, les opérateurs gaziers font l'approvisionnement pour amener de l'approvisionnement qui se veut durable. Maintenant, on sait bien que le gaz est une énergie de transition, donc combien de temps ça va durer ? Nous, on est au service de la France. On est un établissement public d'État, donc comment on fait pour aider la France sur l'approvisionnement en gaz ?
J'ai une dernière question à 30 secondes, monsieur Raison, mais on a fait les comptes tout à l'heure. Les Chinois ont mis au prix des parts dans 14 ports européens, dont Hambourg récemment. Il y a eu aussi le Pirée. Il y a eu des positions prises en Belgique, notamment aux Pays-Bas. Comment est-ce que vous regardez la mainmise croissante des Chinois sur eux ? On estime aujourd'hui que 10% des capacités portuaires européennes sont détenues par une entreprise chinoise. Comment est-ce que vous regardez ça, vous, aujourd'hui ?
Alors, moi, je dis souvent...
Menace ou opportunité, finalement ?
Je vais le voir du côté des armateurs.
Oui.
Les trois premiers armateurs mondiaux sont européens.
Oui.
À conteneurs. Oui. Donc ça, c'est une force. La difficulté de cette industrie, c'est que pendant des années, elle n'a pas gagné d'argent. Et pendant 2 ans, ils ont gagné beaucoup d'argent. Donc, ils vont pouvoir réinvestir. Ça veut dire que d'un point de vue souveraineté, c'est pas inintéressant.
Oui, non, mais parce que vous avez raison de le souligner. Hein, les armateurs ont connu une très grande année en 2022. Ils ont même été interpellés sur leur
2021 profit. 2021 et 2022. Donc, deux années exceptionnelles. Moi, ce que je vois, c'est que l'Europe garde la souveraineté en matière de transport de conteneurs. Et c'est ça qui est important. Parce que si les armateurs à conteneurs européens gardent la souveraineté, ça veut dire qu'ils auront l'argent pour investir dans les terminaux.
C'est vrai.
Et ça veut dire qu'on gardera la souveraineté sur les terminaux.
Voilà.
Alors là, c'est peut-être la fin d'une époque.
Passionnant en tout cas ce qui se passe dans votre secteur. A-t-on besoin de rappeler que 90% du commerce mondial se fait par voie maritime ? C'est bien de le rappeler.
Voilà, et on suivra Aropa de très près.
Merci beaucoup. Merci Stéphane Raison, le directeur général, président du directoire d'Aropa Port, structure qui rassemble donc les ports du Havre, du Rouen et de Paris. Merci beaucoup d'être passé nous voir ce soir sur BFM Business. 18h20, une petite pause et puis ils arrivent.
On se retrouve pour le débat de Good Evening Business avec nos économistes et éditorialistes.
Et un menu très chargé ce soir encore, absolument.
A tout de suite.